Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les matchs-là l'année dernière, où il y a deux ans, on y allait toujours un peu en demi-molle.
Ce manque d'insuffisance qu'on a eu en supériorité numérique.
Ça va être vite fait, les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Voilà. Maintenant, next.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit, l'after qui continue avec vous tous, bien sûr, pendant cette période sans foot, et ce, uniquement sur RMC à la radio. Nous sommes en direct tous les soirs de la semaine dans l'after depuis maintenant près d'un mois ensemble, et puis toute l'année, hein, de toute façon, depuis près de 15 ans, dans l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Et oui, il est là aussi depuis 15 ans, Daniel Riolo, bonsoir.
Salut les amis.
Et lui, bah, il est là depuis, je ne sais même pas combien d'années d'ailleurs, ça commence à faire, hein. Commence à avoir de la bouteille, Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous. Déjà, c'est bien de se rappeler du temps de Daniel, ça serait bien de se rappeler de mon temps aussi.
Ah oui, mais j'ai l'impression que tu es parti des meubles depuis des années, mais je
Non, ça c'est pas vrai. Arrête de vendre du rêve pour me brosser dans le sens du poil.
Je sais que tu ne penses pas.
Tu le. Oui, je m'en rappelle, mon premier after.
La date ?
C'était en 2015, non, il me semble.
Oh. Donc ça déjà, Jérôme.
2015, le premier after, ça veut pas dire que j'étais tout le temps dans l'after. Mon premier after, ça doit faire 2015-2016, ouais.
Bon, ouais. J'aurais dit avant, moi.
Bah,
avant, j'aurais dit 2014.
Non, 2014, j'ai fini ma carrière, et quand j'ai fini ma carrière, ouais. J'ai pas bossé tout de suite à RMC. J'étais sur une grande radio aussi, à RTL avant.
Ah ouais.
Comme toi.
Non, mais moi.
Je me souviens même pas, moi, de tout ça. Je me souviens pas de Jérôme chez un concurrent. Je pensais pas que ça faisait 2015.
Quand il était à 3, après, quand il est passé à Monaco, forcément, il était sous la lumière. Là, c'est pareil. Tu vois,
Exactement. Il faut passer un cap, hein, au bout d'un moment. Il y en a qui peuvent le passer, d'autres qui peuvent pas.
Lui aussi est dans l'after depuis maintenant quelques années. Pierre Ducrot. Pierre, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
C'est quoi ton début Pierre. De l'after, toi, Pierre ?
Mais je sais plus. C'est quand
2017.
Ah, quand on s'appelait SFR Sport encore. Non, un peu avant du coup, non. 2016.
Ça fait 3
2016,
ans.
2017.
Ça fait
3 ans. Ouais. Je dirais 3
2017.
Ans.
2017. Ouais, peut-être.
2017, je pense. Bref.
Peut-être bien, ouais.
Messieurs, l'événement ce soir dans l'after. Ah oui, je précise que Julien Cazard nous rejoint tout à l'heure à 23h40 pour la suite du grand tournoi. Ce soir, le 8e de finale, Périnel, Jérôme Thomas.
Autant dire que l'affiche n'est pas belle, mais bon, après, ça peut être un beau match.
Hein. Non, on l'a dit hier soir, Jérôme, c'est affiche du cours numéro 1.
Ouais. Oh non, le cours numéro 1, ça va pas, c'est le cours numéro 16.
J'aurais
pu
donner
le cours numéro 16.
J'aurais dit 17, moi. Non, tu sais, le 17
ah ouais,
dans le
17,
coin, au fond.
Ouais, le 17, il est plus pourri encore, ouais, t'as raison.
Oh non, là, vous êtes dur. Ah, c'est un 8e de finale. Un 8e de finale, c'est sur un.
Ah, 8e de finale, c'est vrai, c'est toujours. C'est le pire des 8e, ils le mettent sur le 1.
Bah voilà, c'est celui-là.
C'est vrai.
C'est-à-dire le plus beau cours de Roland Garros, selon moi, qui a été détruit. Encore bravo.
C'est un pontivir à on l'étape, ça. C'est pas. En Coupe de France, c'est une grosse surprise.
Alors, l'événement ce soir dans l'after, c'est le Stade Rennais. Eh oui, tout sur le Stade Rennais, le nouveau directeur sportif, la reprise, le mercato. Tout à l'heure, Pierre-Yves Leroux sera avec nous aux alentours de 22h40 pour nous raconter tout ça et débattre avec vous au 32-16. Pierre-Yves qui est sur place, évidemment, en Bretagne. Dans quelques instants, l'actu du jour, avec notamment la LFP qui a déjà une idée très précise du scénario de la reprise. On va en parler. On va également parler de l'interview du jour de Jacques-Henri Hérault. Daniel veut en parler de cette interview dans l'équipe ce matin. Et puis Fred Hermel sera également avec nous. Il nous expliquera comment le Real prépare un gros mercato, tout comme le Barça d'ailleurs. Alors c'est marrant parce que d'un côté on lui dit qu'ils n'ont plus de sous, mais en même temps ils préparent des mercatos de dingue. Donc il faut quand même qu'on comprenne pourquoi. Et puis si on a le temps ce soir, Fred nous a également préparé la fabuleuse histoire de Luis Arconada. L'homme qui était dans les buts de France-Espagne en 84, mais qui a fait d'autres trucs vachement mieux en fait dans sa carrière. Vous le verrez avec.
Il n'a fait que des trucs mieux, c'est ça qui est terrible. Il n'a fait que des trucs mieux, c'est ça qui est ouf.
Eh oui, bah là, il s'est trouvé.
Écoute.
32-16 pour tous ces sujets. Hashtag RMC Live, bien sûr, sur Twitter. Direct Studio, on vous attend pour débattre avec nous. Sinon, vos journées de confinés, là, ça se passe ?
Oui, ça se passe. Oui, oui. En fait, à l'arrivée, je ne saurais même pas te dire ce que j'ai fait.
Ah bon ?
Ouais. Quand tu fais rien, c'est ça.
J'ai joué au tennis avec mon fils dans la cour de l'immeuble. Ce ça, on a le droit.
Ah ouais, le truc bien relou pour les voisins, quoi.
Ouais, bah ça va, les voisins en ce moment, franchement, ils acceptent tout. Franchement, ils acceptent tout, les voisins.
Même pour toi, d'ailleurs, il renvoie les balles quand même, ton fils, ça va?
Mon fils joue très bien, il joue mieux que moi.
Il joue mieux que Daniel. Okay, ah non, mais il joue mieux que toi. Okay, okay. Heureusement.
C'est plus relou pour ton fils que pour toi.
Et finalement, on n'a pas su, mais par rapport à l'autre fois, quand tu hurlais dans le poste, là, lundi, ils sont venus te voir pour râler, les voisins, ou ils n'ont rien dit?
Mais franchement, je j'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans l'immeuble.
T'as pas de voisin, ouais, c'est ce que tu nous avais dit.
Mais non, mais c'est très bizarre. Il y a le couple de vieux à l'appart à côté sur le palier qui sortent pas.
Les vacances,
et j'ai l'impression, je sais pas. Comme déjà en face, c'était en travaux, donc bon,
voilà. Ils sont tous partis à leur résidence secondaire.
Mais en dessous, non, mais tu sais, non, mais attends, tu sais, même quand à 8h, là, tu sais, on va applaudir à la fenêtre. Et ben, en fait, dans l'immeuble en face, à côté, il y a du monde. Dans le nôtre, j'essaye de pencher, bon, en faisant attention, évidemment, pour regarder dans l'immeuble. Tu sais, j'ai dit, mais putain, c'est ouf, ça. Personne, il doit y avoir une personne dans l'immeuble qui sort pour applaudir. C'est très bizarre. Je sais pas.
T'as regardé en bas de l'immeuble, ça se trouve, ils sont tous penchés comme toi, ils sont tous.
Je sais pas, je t'avoue que vraiment.
On regarde dans les Troènes.
Les Troènes.
Alors, j'avais pas entendu le nom de cette végétation depuis 1000 ans.
Ah ouais, Troènes.
Ouais, toi Pierre, tout va bien?
Moi j'ai été très bien, ouais, très très occupé aujourd'hui, j'ai pas vu la journée passer. Entre un peu la famille et le boulot, honnêtement.
Le business s'arrête jamais, hein, pour un homme de la dimension.
Ouais, non, mais j'ai plein de monde au téléphone. Non, franchement, je me suis pas ennuyé. Des joueurs, des clubs, enfin voilà.
Bon, très bien.
Plein de monde et la journée passait très vite.
Jérôme, un truc à rajouter?
Non, moi je prépare le marathon parce que j'ai encore bien couru et je m'étonne même à courir autant sur le tapis. Donc voilà, c'est tout. Mais sinon après c'est passé classique. Il a fait beau, donc profiter du jardin avec mon fils.
Combien tu fais sur le tapis? Tu cours combien? Beaucoup.
Franchement là je suis à 50 minutes
c'est bien,
sur le tapis à 12 km heure, tu vois.
Oh, oui, c'est bien.
Ouais.
Moi je fais une demi-heure de vélo. Est-ce que c'est assez? C'est pas beaucoup une demi-heure de vélo? C'est assez, faut que je fasse plus, dites-moi.
Ça dépend à quelle
intensité. Une demi-heure de vélo, ça dépend comment tu fais, Daniel, c'est toujours pareil. Mais fais du fractionné sur le vélo, c'est mieux.
Ah, mais je sais pas, j'arrive pas à le faire sur le vélo, ça. Je sais pas comment on fait ça.
Tu pédales plus vite,
tu ralentis.
Ça veut dire que tu vas un peu doucement, un peu t'accélères, un peu doucement, un peu t'accélères.
C'est ça, mais tu mets un peu de puissance aussi.
Je dois faire un peu moins de 9 km.
Mais t'as un vélo comment, Daniel, aussi? Est-ce que t'as un vélo avec
un truc d'appartement?
9 km en une demi-heure à vélo,
c'est moins là.
Tu vas à 2 à l'heure en fait.
Bah oui, tu vas.
Non, mais je mets la grosse puissance là, tu sais, le truc où il faut vraiment pousser, quoi.
Ah,
faut pas faire ça, c'est pas bien.
C'est électronique ou t'as juste la petite roulette de plus et moins?
Non, c'est une petite roulette.
Non, c'est un truc bien quand même. Je comprends pas ce que c'est, la petite roulette à l'ancienne, les amis.
Tu sais, où tu mets un peu plus de poids ou moins de poids, quoi, tu vois. Mais c'est pas électronique, c'est une roulette qui sert un peu la roue, quoi, la poulie. Et donc c'est plus dur de pédaler.
C'est pas une poulette, Pierre. Je crois qu'il a
roulette,
il met des cartons.
Une poulie. Poulie, pas une poulette.
Mais non, il est bien. Je sais pas pourquoi vous dites ça. Vous voulez pas me dire plutôt ce qu'il faut faire plutôt que.
Mais non. Bon, ma question était sérieuse, Daniel, parce que si c'est un vélo, tu sais, avec l'écran électronique, tu peux vraiment faire du fractionné. T'as des programmes.
Ah, j'ai pas regardé. Moi, je fais juste. Je mets un peu plus de. Tu sais où il faut pédaler plus fort et tout. Mais je sais pas si c'est bien de le faire.
Si t'es un vrai warrior, quand tu te réveilles le matin, un grand verre d'eau et tu vas sur le vélo une heure à jeun.
Attends, c'est ce que je fais. J'y vais à jeun le matin avec le verre d'eau, comme tu dis, mais je fais pas une heure, je fais 30 minutes, mais bien à fond quand même. Hein. Je termine en eau, quoi, quand même. Je termine en eau.
Après, faut pas manger des pâtes au petit-déj après aussi. Hein.
Non, je mange pas des pâtes au petit-déj, non. Je les mange à midi ou le soir, mais je mange pas au petit-déj.
Bon, on y va, les gars. Après vos journées de confinement.
C'est pas bien non plus, faut pas manger, c'est ça?
Si, tu peux manger.
Ah bon, tu me fais peur, non, mais c'est toi, comme tu manges rien ou.
Non, mais lui, il est
fou.
Trucs
un peu de. Bah, ouais, non, voilà, toi, tu fais des trucs de. Des graines.
J'avoue que je mange
des graines, ouais.
Ça, c'est vrai.
Ouais. C'est pas bien?
Bon, je sais pas, c'est une question d'envie. Je
pèse le à la place.
Et je pète le, il n'y a rien de mieux. on y va. La Ligue a élaboré très précisément, depuis donc l'intervention d'Emmanuel Macron l'autre soir, la Ligue a élaboré un scénario de reprise très précis. Daniel, on va pouvoir rentrer un peu dans les détails.
On a bossé, même à la maison, on s'est informé. Pierre Ducrot, il s'informe pour faire du business avec les joueurs. Et puis nous, on s'informe aussi, quoi, tu vois.
Ouais, depuis le début de la semaine, je vous parlais de deux scénarios. Un scénario de reprise tout début juin et un autre mi-juin. Donc en fait, c'est celui de mi-juin qui s'impose. Bon, évidemment, tout ça avec un déconfinement prévu le 11. Et donc, il se confirme, Daniel, qu'on prévoit un mois de prépa avant les matchs. Donc, en gros, mi-mai.
Est-ce que tu veux des détails? Tu veux qu'on aille vite? Tu veux qu'on fasse comment? Parce que c'est un peu long quand même. Hein. On a un peu de temps quand même pour tout bien expliquer.
On a 2 heures.
Déjà, je souhaiterais faire une intro quand même parce que il est vrai. Alors juste avant l'émission, je lisais un papier dans le fil du Point de Guillaume Paré qui disait il faut surtout pas reprendre. Et ça,
qui
effectivement,
est Guillaume Paré ?
Un journaliste du Point. D'accord. Parce que je t'ai dit que j'ai lu ça dans le Point.
Ça pourrait être un médecin, ça pourrait être tu vois quelqu'un. Bref.
Ouais. Non.
Un journaliste.
Ouais, voilà, exactement. Et effectivement, il y a cette espèce de, comment dire, de vent qui commence un petit peu à tourner ou à monter. Ça a commencé avec le communiqué des ultras qu'on a lu l'autre soir sur il faut pas reprendre, relayé par 3 présidents. Là, je crois qu'on en est maintenant à celui de Brest, celui de Dijon et à Nîmes aussi.
Ça les arrange, Daniel.
Bien sûr, Jérôme. Ça, on va dire après les arrangements des uns et des autres. Je parle de cette espèce d'esprit qui commence un peu à monter. Jean-Jacques Bourdin sur notre antenne a dit pareil, c'est indécent, faut pas en reprendre machin. Bon, moi, j'avoue, je comprenais pas trop pourquoi tous les secteurs d'activité veulent reprendre et doivent reprendre et ont envie de reprendre parce qu'il faut aller bosser. Mais alors le foot. C'est toujours un petit peu quand vous vous plaignez, vous les anciens joueurs, qu'on tape toujours, et vous avez raison, sur les footeuses, qu'ils doivent faire, pas faire, toujours le mot indécence qui est collé. Le foot, il faut surtout pas que ça reprenne. C'est pas bien, c'est indécent si ça reprend, c'est aller à l'encontre des mesures sanitaires, comme s'ils sont tellement cons, qu'évidemment, ils vont pas faire attention à la façon dont on va reprendre, évidemment. Ouais, tu vois, dans le foot, on est tous cons, hein. Évidemment, ils vont reprendre les autres secteurs d'activité dans l'industrie, tout le monde dit, il faut vraiment qu'on reprenne, sinon il va y avoir des gros problèmes partout. Mais le foot a pas le droit de le dire. Le foot,
c'est pas qu'on est tous cons dans le foot, Daniel, c'est qu'on est tous attirés par uniquement l'argent et les autres activités,
donc,
pas du tout.
Le foot a pas le droit de dire que il doit reprendre, que c'est important, machin. Partout, toutes les autres secteurs d'activité, ils ont le droit de dire, bah ouais, ça va être un vrai problème et tout. Et d'ailleurs, on compatit parce que tout le monde compatit avec tout le monde dans ce moment-là. Mais le foot, on n'a pas le droit. Le foot, c'est juste indécent. Le foot, c'est indécent. Donc, il y a eu ces mouvements-là dont je vous ai parlé, mais visiblement. Tous ces gens-là ne sont pas réellement informés, donc ils peuvent continuer à parler et à brasser du vent. On va rentrer, nous, dans les détails, et on va tâcher d'expliquer pourquoi ça va reprendre. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule, institution, une seule voix qui peut faire que ça ne reprendra pas, c'est l'État. Si l'État dit ouais, « ouais, ouais. vous ne reprendrez pas », ça ne reprendra pas. Sinon, pour le reste... il va y avoir une obligation de reprendre. Et tout le monde peut s'agiter dans son petit coin, se tortiller le cul, ça reprendra. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que l'UEFA va l'imposer, parce que l'UEFA l'a déjà imposé, parce que l'UEFA a menacé la Belgique quand la Belgique a dit qu'il voulait arrêter. Parce que l'UEFA, les championnats se terminent pas, comme l'UEFA a dit, ils accepteront pas les équipes en Coupe d'Europe, ils valideront pas les inscriptions. Donc, plutôt que de tous là, s'agiter, de tous autant qu'ils sont en train de s'agiter là, eh bien, il faut juste qu'ils ouvrent les yeux, les mecs, et qu'ils disent, et qu'ils lisent les règlements, et l'UEFA s'impose aux ligues nationales, et il y a que l'État qui est au-dessus de l'UEFA en matière de football. Donc, la première raison pour laquelle ça va reprendre, c'est ça. C'est l'UEFA qui l'imposera. La deuxième, c'est de l'ordre du, comme je vous disais que l'État pouvait imposer, c'est de l'ordre du légal, c'est la force majeure. Si l'État dit, vous reprenez pas, alors la force majeure s'imposera et le football financièrement tentera de se sauver par rapport à ses sponsors, par rapport aux droits télé. Je veux dire, devant un tribunal, on pourra dire oui, mais si on n'a pas repris, c'est parce qu'il y a la force majeure. Et la force majeure, c'est l'État qui l'a décidé. Donc par rapport aux sponsors, les assurances, tout ça, tu auras des motifs pour combattre la décision des gens qui ne voudront pas payer le football. Jusque-là, tout est clair, Gilbert?
Continue. Ouais.
Voilà, donc le rôle de l'État, le rôle de l'UEFA, le football coincé entre les deux. Et puis évidemment la troisième raison, mais ça on en a parlé mille fois depuis le début, c'est la raison financière, c'est les 280 millions de pertes Canal Bein. Donc le romantisme sanitaire qu'on essaye de nous vendre un petit peu partout, c'est du grand bidon. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le scénario concret, entrons dans le concret, parce que nous on a des infos et on brasse pas du vent en faisant des papiers qui veulent rien dire, comme ce fameux Guillaume Paré. Que fait-on? Macron a dit le 11... la fin de cette période de confinement qui veut pas dire qu'elle sera pas prolongée, hein. Il faut parler de façon pragmatique. Donc ça veut dire et jusqu'au 15 juillet pas de public. Donc ça veut dire le 12 reprise de l'entraînement. 4 semaines de préparation parce que tout le monde a consulté les médecins du sport, les staffs médicaux ont parlé. Reprise le 12 juin, à huis clos, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Fin du championnat, fin juillet.
L'UEFA va sonner un petit peu la fin de la récré, va siffler la fin de la récré le 23 avril. Voilà. Ils vont donner le calendrier de la Ligue des Champions qui sera soit un Final Four, soit un Final Eight pour le mois d'août.
Alors là, on parle d'un Final Eight au mois d'août. Ouais, et il y a une rumeur comme quoi il y aura un lieu formule unique.
Ça serait moi j'ai des infos là-dessus aussi et ça serait donc tout le mois d'août et tout le mois d'août en mode comme un euro en fait se déroulerait dans plusieurs pays bien sûr parce qu'il y a plusieurs clubs et en fait des matchs quasiment tous les 3 jours où tu ferais pareil des quarts de finale en aller-retour sur une semaine et après t'enchaînes sur les demi-finales aller-retour et puis après la finale fin août. Et en fait, c'est ça, comme dit Daniel, c'est ça qui va clôturer le débat. En fait, une fois que l'UEFA aura mis ses dates en place et essaiera de s'y tenir, parce qu'après, tout peut évoluer, hein, on le dit sans cesse, mais c'est toujours pareil, hein, ça sera au jour le jour par rapport à ce putain de virus. Derrière, la Ligue 1, comme l'a dit Daniel très justement, la Ligue 1 va se mettre en place pour que
et elle reprendra fin août. La Ligue 1 reprendra fin août.
Ah oui, vers le 22.
La saison d'après, la nouvelle saison.
Dans ce cas-là.
En fait, moi, moi, je me posais la question, je me disais, mais en gros, parce que moi aussi, j'ai eu des infos de l'intérieur, pourquoi, je posais ces questions-là, mais pourquoi, dans ces cas-là, la Ligue 1, vous la décalez pas le début de l'année prochaine, à fin septembre, début octobre. Et en fait, une chose.
Question très intéressante, vas-y, commence à expliquer, j'ai aussi des détails là-dessus, vas-y, je t'en prie.
Ouais, mais en fait, ce qui est clair, c'est que déjà, les dates de l'euro sont bloqués donc au mois de juin 2021 donc ça c'est problématique pour tous les championnats parce que après on a beau dire il y a des dates il y a plus la Coupe de la Ligue mais il y a pas tant de dates que ça et en fait si tu reprends le championnat début octobre par exemple ce qui serait plus logique pour laisser un peu les joueurs se reposer aller en vacances et reprendre une condition physique digne de ce nom pour faire une année en fait il y a pas assez de dates t'as pas assez et parce que tu vas avoir les dates pour les équipes nationales forcément ils vont jouer dans l'année aussi elles auront pas joué depuis la plupart 6 à 8 mois donc ces dates là vont être mises en place tu peux négocier peut-être une date sur ça mais il y en aura quand même après il y a les coupes d'Europe qui seront forcément en décalé parce que si tu finis la Champions League fin août ça veut dire que tous les barrages qui ont lieu d'habitude entre juillet et août ils vont avoir lieu entre septembre et octobre entre septembre et octobre donc tu vas décaler la Ligue des Champions d'au moins 2 mois.
La Ligue des Champions, elle serait en novembre-décembre, en fait.
D'au moins deux mois et même voire janvier. Donc en fait, à l'arrivée, t'as plus de date. Et si tu veux finir le championnat en bonnet du forme à 38 journées, t'es obligé de commencer la saison fin août. Et voilà pourquoi absolument.
Attendez, Jérôme, alors dans ces cas-là, imaginons le PSG ou Lyon. Qui se qualifie en Ligue des Champions, qui se retrouve, imaginons, dans ce fameux Final 8.
Ouais.
Ça voudrait dire qu'en fait, ils n'auraient pas de trêve. C'est-à-dire maintenant. Ils enchaîneraient fin de championnat, Coupe d'Europe, re-championnat.
Ouais, ça c'est problématique, mais à l'arrivée.
Et ça va être le cas pour toutes les équipes engagées en Ligue des Champions qui vont être confrontées à ça.
Et puis Daniel, ce que je veux dire, c'est que.
Ils laisseront des joueurs partir, voilà.
Ça fait chier tout le monde parce que bien sûr que d'une année à l'autre t'as besoin de souffler besoin de te reposer déjà physiquement après
mental, c'est vrai qu'en septembre il y a 15 jours en septembre de trêve internationale tu diras ces joueurs là ils sont tous en équipe nationale quasiment
De toute façon il y a des saisons comme ça moi je l'ai connu et tant mieux pour moi mais il y en a d'autres qui connaissent ça tous les ans t'as très peu de vacances quand t'enchaînes les compétitions de très haut niveau que tu deviens international que t'enchaînes. Des fois, t'as 10 jours de vacances. Ça m'est arrivé d'avoir 8 jours de vacances. À l'arrivée, c'est pas grave. Écoute, ils couperont pas cette année. Ils seront très fatigués en fin de saison. Peut-être que dans l'année, en effet, ils arriveront à couper avec les staffs en place, avec les équipes. T'as quand même moyen de, au bout d'un moment de filer 15 jours à un mec ou une bonne semaine pour qu'il se repose et qu'il parte en vacances en famille dans l'année.
Il y a un truc qui se fait jamais dans le foot qui peut aussi être imaginé. Peut-être que vous allez hurler, mais enfin, dans une entreprise lambda. Entreprise lambda, les salariés partent pas tous en vacances en même temps.
Bah oui, bien sûr.
Demain, tu peux très bien dire à ton gardien.
De l'adaptation, bien sûr.
Tu peux très bien dire à ton gardien, écoute, là, on a trois matchs. Là, on te donne 15 jours à toi. Tu vas partir en famille et on t'attend dans 3 semaines. Et puis après, tu rentres.
Juste pour envoyer tes 3 gardiens en même temps en vacances.
Voilà. C'est comme Giroud qui ne mettait pas les gardiens dans le même avion. Ça, c'est quand même fantastique.
Donc, l'UEFA, pour finir, va dire à tout le monde, vous finissez le 3 août. Toutes les ligues sont d'accord. Donc, Tebas, en Italie. D'ailleurs, je note quand même que tous ces mouvements, de faut pas reprendre, tout ce romantisme sanitaire qui cartonne en France, dire en Allemagne, en Angleterre, qui sont des pays, en Angleterre surtout en ce moment, où on souffre aussi. Mais je disais l'autre soir, après, il y a peut-être des facteurs culturels.
Le romantisme sanitaire, comme tu dis, en Allemagne aujourd'hui, ils ont quand même décidé qu'il n'y aurait pas d'événement avec du monde jusqu'au 31 août. Hein.
Mais de toute façon, ça on le sait.
Donc ça veut dire huis clos.
Mais attends, quand je dis romantisme sanitaire, ça veut pas dire ne pas faire attention. Attends, la base de toute la réflexion, c'est de faire attention, c'est de tester les mecs, c'est de prendre aucun risque. Attends, encore une fois, on va pas revenir à ce qu'on disait lundi. On va pas faire des introductions démagogues qui servent à rien. Évidemment qu'on souhaite que personne soit malade, évidemment qu'on souhaite que tout aille bien et que tout le monde soit testé et qu'on prenne pas le moindre risque. On va pas se mettre à répéter ça sans arrêt. On le sait, ça.
C'est tellement fragile.
Essayons d'être concrets. Avancer, quoi.
La Fédé italienne a dit aujourd'hui qu'elle testerait tous les joueurs.
Bien sûr, avant les reprises. Mais bien sûr. Donc, ce que je voulais dire.
Daniel, si je peux rajouter quelque chose par rapport à l'Allemagne, pour avoir eu quelqu'un au téléphone aujourd'hui qui bosse dans un club allemand, et dans un gros club allemand. Il parle calmement, lui, non? Un peu anglais?
Peut-être,
je sais pas.
Sans doute.
C'était pas Rummenigge. Mais toujours est-il que ce qu'on peut lire dans les journaux ne reflète peut-être pas ce que pensent les gens dans les clubs, notamment les clubs qui ont commencé à reprendre par petits groupes, etc., qui se rendent compte que c'est très très compliqué déjà comme ça d'assurer des conditions sanitaires dignes de ce nom, et qui ont énormément de doutes sur le fait que tu puisses jouer des matchs de football même à huis clos en assurant des conditions sanitaires effectivement.
Ah non, mais ça va être compliqué.
Alors moi j'aimerais juste. Les gars, décalés, il y a un argument quand même qui commence à poindre et que j'ai entendu dans la bouche de 2 ou 3 médecins, notamment de psychologues. Vous savez que les psychologues commencent à s'inquiéter des conséquences du confinement pour certains, parce qu'il y a des gens qui le vivent très très bien, mais d'autres qui le vivent très très mal. Voilà, parce que des fois ça dépend des conditions dans lesquelles t'es, petit appartement, pas de possibilité de sortie, etc. Et qui disent, finalement, la reprise du foot, c'est aussi une bonne nouvelle pour tous ces gens-là, parce que psychologiquement, il y a besoin aussi d'événements pour s'évader un peu, pour oublier le quotidien et tout. Et ça fait partie. C'est un argument finalement qu'on entend assez peu.
C'est pour ça que toutes les chaînes de en ce moment aussi adaptent leurs programmes et mettent des programmes et familiaux.
Et ça peut compter aussi dans la décision.
Compter, ouais, mais tu peux. Un peu anxiogène. Ouais, ça fait partie du rôle. Enfin, ça a toujours été le rôle du football.
Le foot, c'est le premier spectacle de France. Faut le rappeler. Il y a plus de monde tous les gens qui vont.
Mais non, c'est indécent, voyons. C'est indécent, Gilbert. C'est indécent, voyons. Tout le monde va commencer à te le dire là. Bon, après, il faut peut-être. Pourquoi le point de vue, Gilbert? Moi, je veux bien toujours cette histoire d'entendre des points de vue, mais pourquoi il y a autant de gens qui s'acharnent à dire c'est indécent, qu'il faut pas reprendre, qu'il faut pas ceci, qu'il faut pas cela?
Parce que chacun vit différemment la crise et la difficulté quotidienne. Pourquoi
le foot?
Et chacun vit différemment son rapport au foot.
Ça a toujours été comme ça.
Les gens qui donneraient rien à secouer du foot.
Mais alors, rien à voir à secouer. Alors, moi, j'en ai rien à secouer. Je sais pas, je vais dire au hasard, vraiment,
sans.
Voilà. Donc je vais souhaiter que tous les clubs se cassent la gueule. Non mais c'est aberrant de dire ça, tu peux pas dire un truc pareil.
Non, tu vas dire je m'en fous que ça reprenne ou pas, puis voilà.
Eh ben non, je dirais pas, moi il y a rien dont je me fous, moi si la vie de gens dépend, exactement. C'est quand même hallucinant ça. C'est quand même fou tous ces gens qui parlent de l'indécence et tout. Moi, Daniel, je comprends pas, mais on doit rien souhaiter qui capote.
On a la chance, nous, quand on fait l'after, d'avoir un public. On n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. On a des remarques sur Twitter, etc. Mais c'est un public qui adore le foot. Voilà, quasiment à 100%, c'est un public de suiveurs. Et donc, quand on a des débats de ce genre-là, on a finalement pas trop les gens dont on parle là. Dimanche dernier, j'ai fait les grandes gueules le midi. Public totalement différent. différent. Petite pastille vidéo qui sort de 3 minutes où on dit juste que, enfin, où je disais juste que effectivement, si le championnat ne reprenait pas en France, j'étais inquiet pour certains clubs de Ligue 1 pour leur avenir. Voilà, ni plus ni moins. J'ai pas dit qu'il fallait absolument reprendre, même si ça devait tuer des gens, etc. Hein, loin de là. Au contraire, hein. Les réactions sur Twitter sont effarante. C'est-à-dire que tu n'as que des commentaires de gens comme tu viens de citer, Daniel, ben où ouais. Leur seule réflexion, c'est on s'en fout du foot. Est-ce que le foot c'est important? Le foot c'est pas grave.
Mais
le foot
pas.
Ça passe après tout le reste. On s'en fout. De toute manière, il y a de l'argent. Ils s'en sortiront toujours.
Mais comment ça, tu comprends pas, Daniel? Bien sûr que tu comprends. C'est que
oui, non, mais quand je comprends.
Tu sais qu'il y a une partie de la population française qui est anti-foot parce que bah c'est le fric, voilà. C'est la frime, c'est machin, et qui dit bah attends, il va pas nous casser les gens.
Ces gens-là oublient qu'il y a pas que des joueurs dans le football. Et il y a pas que des joueurs. Les joueurs gagnent pas la même chose. Mais ça, on va passer. Mais il y a des employés qui gagnent des salaires tout à fait normaux et qui en vivent et qui ont besoin de ça pour vivre aussi.
Tous d'accord. Dans quelques instants,
même les employés, de Canal qui diffusent les matchs et tout, eux aussi peuvent perdre des emplois. Il y a pas que le guichetier du stade.
Regardez RMC Sport.
Il y en a qu'en perd.
Je comprends pas.
Nous, RMC Sport, il y a 70% de la rédaction qui ne travaille plus aujourd'hui.
Ces réactions me dépassent. Il faut élaborer autre chose après. Oui. Ouais, il y a d'autres choses à raconter.
Et puis Yacine veut donner son point de vue également au 32-16. Il nous attend. On se retrouve dans quelques secondes dans l'after. On est là jusqu'à minuit, bien sûr. N'oubliez pas notre dossier René tout à l'heure à 23h. Supporter de Rennes, on vous attend au 32-16.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Pierre Ducrot, Jérôme Bretagne, ils sont là jusqu'à minuit. On va continuer le débat sur la reprise et on a Yacine avec nous au 32-16. Yacine, bonsoir.
Ouais, bonsoir toute l'équipe.
Bon, salut Yacine. Le foot te manque, Yacine?
Ah bah comme tous les passionnés, hein, forcément. Hein. Alors bon, je regardais quelques rediffusions par-ci par-là.
Ah bah tiens, tu sais quoi, Donald Trump.
J'ai entendu.
T'as vu ce qu'il a dit, lui? Ah oui, il a dit, non, mais là, le sport doit absolument reprendre.
Ah bah, c'est du Trump, hein.
Il dit, j'en ai marre de regarder des vieux matchs de baseball d'il y a 14 ans.
Je sais pas si ça va servir notre cause, quand même.
Non, mais c'est quand même l'argument de ouf, quand même, tu vois, le gars.
Ouais, ouais.
D'abord, bref.
Mais il voulait même reprendre l'activité économique le week-end dernier, déjà, donc le week-end de Pâques.
Il a fait d'autres choses pas très jolies aujourd'hui.
Ouais, c'est Donald.
Passons, c'est Donald, voilà.
Non mais écoutez, j'étais assez d'accord avec les arguments que vous avez exposés, hein, au niveau de la date. J'ai vu que la Première Ligue voulait absolument, quitte à ne pas finir toutes les journées, mais que le championnat se termine d'ici le 30 juin par rapport aux fins de contrat. Alors je pense qu'en France, il y aura un réajustement au niveau justement des fins de contrat et des... Bon, Pierre, t'es mieux placé que moi pour savoir ça. Est-ce que après vous allez avoir des échos, est-ce que les joueurs...
Oui et non, parce que pour l'instant, honnêtement, on sait pas trop comment ça va se passer. Tout le monde va y mettre du sien, mais honnêtement, juridiquement, pour l'instant, c'est le flou total, toujours.
Après, bon, bah, de toute façon, la
loi... Yacine, t'es supporter du PSG?
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu souhaites que les joueurs du PSG sortent du bois et fassent un geste financier?
Oui, bah oui. Après, ça fait partie de la solidarité. Oui, bien sûr. Évidemment, ce serait... Bah, le club a fait quelques gestes déjà. Il y a eu quelques au niveau de la fondation. Et puis il y avait eu là, il y a pas longtemps, une initiative. C'était il y a à peu près une semaine. Ah, je sais plus exactement ce que c'était. Mince. Il y avait eu une participation. C'était par rapport aux victimes du Covid.
Attends, stop. Je dis stop. Lequel d'entre vous tape sur son ordinateur?
Ah, pas moi.
Faut arrêter, on entend, ça s'entend à l'antenne. Merci.
Non, mais oui, bien sûr, ouais. Les joueurs, après, s'ils peuvent avoir un élan participatif, ça serait bien. Maintenant, j'étais assez d'accord avec Daniel, par rapport au débat que vous avez eu, c'était avant-hier, il me semble, avec le supporter de Grenoble, enfin l'Ultra. Même un club comme Paris, aujourd'hui, négocie, et oui, des baisses de salaire de 50% pour les gros joueurs. Bah oui, parce que même un gros club... Eh ben, un gros club perd de l'argent. Pour Paris, c'est quasiment 300 millions d'euros. Donc oui, derrière, il y a des emplois qui sont menacés. Et oui, tout le monde est affecté. Et si les plus gros sont affectés, les plus petits vont trinquer. Et chacun était là avec faire sa petite tambouille. Chacun était dans son coin. Un coup, c'était le président de Brest. Un coup, c'était comment il s'appelle, votre collègue, Monsieur Bourdin.
Ouais, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Donc, bon. Voilà, donc c'est. Mais ce qui est important lorsque.
Après, le... bon, une nouvelle fois, ils donnent leur avis. Hein. Bon,
non, mais eux, il faut leur tambouille. Moi, Gilbert.
Leur droit télé,
voilà, c'est ça, c'est exactement ça, Yacine, t'as raison. Eux, en gros, à l'arrivée, ils préfèrent ne pas reprendre parce que si tu reprends le championnat, il faut savoir que ces clubs qui ont touché, comme n'a dit Yacine, 90% déjà des droits télé. Donc,
et qui risquent encore la descente,
reste,
tu veux dire.
Il leur reste que 10%. Ben oui, déjà, ils sont sûrs d'être maintenus. Parce que ouais. Pour l'instant c'est le cas de Brest et de Dijon par exemple hein, les présidents qui ont parlé et puis t'as le fait que si tu reprends il faut remettre les joueurs à l'entraînement et quand le joueur reprend l'entraînement il faut qu'il soit payé, ce qui me paraît logique. Ouais. Là il y a plus de concessions à faire. Aujourd'hui tu peux le faire parce que le joueur il est...
c'est peut-être plus intéressant pour eux paradoxalement, il est
c'est sûr, ils ont fait leur calcul mais pourquoi Pierre, pour l'équité du championnat, pourquoi ils veulent que ça s'arrête?
Pour être sauvé peut-être.
Sinon tu le continues
moment,
si c'est pas
au moment où il parle, je pense qu'ils veulent arrêter tout simplement parce qu'ils voient pas le. Alors effectivement, il y a moins de conséquences financières pour eux, ça je suis d'accord. Et ça les aide peut-être à parler dans ce sens-là, mais je pense pas que leur raisonnement soit basé là-dessus. Je pense que leur raisonnement il est basé tout simplement sur une situation qui est catastrophique, situation sanitaire qui est catastrophique autour d'eux et partout.
On va passer à la suite.
Ça reprenne à cause de ça quoi.
Parce que c'est au jour le jour, on sait très bien depuis un moment. C'est incroyable ces présidents là, ils devraient fermer leur tronche.
Quelques infos liées aux fameuses baisses de salaire. Arsenal, alors l'équipe de direction a baissé tous ses revenus de 33%, donc tous les dirigeants, salariés du club, mais pas les joueurs. Donc ça négocie toujours avec les joueurs. Pour l'instant, ils ont refusé une première baisse de 12,5%, donc ça négocie, hein, Arsenal. On se rend compte quand même que les négos, elles sont pas si faciles dans certains clubs. Hein. Ça s'est fait vite au Barça ou au Real.
Mais le problème, tu veux que je te dise
L'important, c'est que ça arrive. Hein. Comme je disais la semaine dernière à Pierre, ou il y a deux semaines, je commençais à lui dire je suis pressé, il me disait attends, ça peut venir et tout, maintenant ça vient, et comme je l'ai dit quand il n'était pas là l'autre jour, moi je suis content de voir que ça vient, que ça discute, que le PSG, d'un coup immédiatement il y a eu des articles évidemment parce qu'il fallait tomber sur les joueurs du PSG, ils vont pas, et puis on apprend qu'en fait Thiago Silva va prendre des choses en main.
Il y a eu des articles très bizarres, Daniel, sur le thème les salariés du PSG attendent un geste des joueurs, c'est bizarrement tourné, c'est-à-dire comme si un salarié avait appelé un journaliste en disant dis donc, et nous on attend.
Ils nous ont rien fait encore.
Ça me paraît bizarre,
Et puis de toute façon,
les joueurs sont jamais contre ça.
Benedetto aujourd'hui, alors c'est pas le PSG, mais Benedetto a donné une interview très longue à une Argentine. Mm-hmm. Et il a dit Moi, je suis tout à fait prêt à une baisse de revenus, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que ça négocie aussi à l'OM.
Vu l'interview d'Héro aujourd'hui,
on va en reparler tout à l'heure.
Je pense que oui, en effet, ils n'auront pas le trop le choix.
Sinon, juste, on n'a pas terminé. Je suis désolé de revenir là-dessus sur le scénario. Juste pour dire que le scénario là du 12 machin. Évidemment, tout ça doit être validé avec le gouvernement et la Ligue, la Fédé est en contact avec le gouvernement, avec le Premier ministre, avec la ministre des Sports pour que évidemment on discute des tests à faire, de définir ce que veut dire un huis clos. Est-ce que c'est 100 personnes, 50, 80, 200? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et tout ça doit entrer dans le cadre.
T'as raison de dire ça, Daniel. Je te coupe, mais
tout doit être défini.
Mais le huis clos, il a rien à voir en plus avec un huis clos pour.
On
ne
sait pas. Il va falloir le définir.
Voilà, c'est ça. C'est pour
exactement.
Ça.
Donc,
ça peut être problématique aussi. Hein,
tout va entrer dans le cadre du plan de déconfinement qui va être élaboré dans les 15 jours qui viennent par le gouvernement. Et c'est à ce moment-là qu'on en saura plus. D'ici là, l'UEFA aura parlé et aura dit aux ligues, vous devez terminer, mais toutes les ligues sont d'accord. Donc toutes les petites voix discordantes, comme le président de Brescia ou les petits clubs en France qui ont aucun intérêt à ce que ça reprenne, eux, donc ils s'en foutent, donc c'est pour ça qu'ils s'expriment, parce qu'effectivement, eux ont pratiquement reçu toute l'oseille des droits télé. En fait, le problème financier concerne surtout les 8 plus gros clubs, ceux qui sont intéressés par la prime de notoriété, la prime de classement, c'est tous ces clubs-là pour qui c'est très important. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Et puis,
on passe à l'OM ?
Passons à l'OM.
Alors on fait une petite pause et on revient. On va parler de l'interview de Jacques-Henri Garraud ce matin qui était quand même assez inquiétante. On en reparle tout de suite avec vous au 32C Supporters Marseille.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jérôme Rotella, Daniel Riolo, Pierre Ducrot, l'OM au programme. Pourquoi ? Parce que Jacques Henri Hérault donc, donne une interview à l'équipe ce matin et il dit « Nous sommes un secteur sinistré. Comme les transports, la restauration, voilà, il dit, il parle de la reprise. Bon alors, il milite évidemment pour les spectateurs dans les tribunes. Hein. Lui, il va dans le sens de ses supporters. Voilà, mais enfin, c'est pas lui qui va décider. Et Daniel, tout ce qu'il a dit ce matin a suscité chez toi un avis.
Ouais, en fait assez rapide en fait. C'est l'analyse de son interview, c'est la première question, la première réponse. Je sais pas si vous avez vu. Jacques-Henri Hérault, on sait à quel point l'argent droit télé, tout ça, c'est vital. Il faut vraiment que ça rentre. L'OM doit être dans les clous de tout. Et quand on lui dit quelle est votre opinion là-dessus et tout, faudrait compter le nombre de lignes que fait la réponse. Il tortille du cul pendant, je sais pas moi.
Disons qu'il tourne autour du pot.
Il tourne autour du pot en parce qu'il a un tel déficit vis-à-vis des supporters. Il tourne autour du pot en parlant des supporters. Le foot à huis clos, c'est pas
en
bien.
En tortillant du cul.
Voilà, un football sans supporters, c'est pas bien. Mais tu as lu cette première réponse, à quel point elle est démago, et il termine la dernière. Oui, mais de toute façon, s'il faut jouer à huis clos, on jouera à huis clos.
Bah oui, mais il fait de la politique, Daniel. Mais
écoute, moi, je ne suis pas un politique. Moi, j'en peux plus des gens qui parlent comme ça. J'en peux plus du louvoiement. Mais soyons directs. Il faut dire les choses. On peut pas faire autrement. On fait ça. Comment ça marche? On établit un calendrier. Je suis désolé, les gars. Oui, on sait tous que c'est mieux avec du public. Évidemment, on aime tout ça. Mais arrêtez de cirer le cul des gens en les prenant pour des gogos. La réponse. Mais tu l'as lu, la réponse. Mais franchement, j'aimerais que tu la lises en entier.
Je l'ai sous les yeux.
Mais c'est dément de tortiller à ce point pour terminer par.
Alors, de toute façon. Il fait des révérences.
Il sait rien sur plein de choses, Gilbert. Moi, c'est ça qui me dérange.
Moi, ça m'énerve. Moi, je te jure, en plus, l'interview, elle est plutôt pas mal, Jérôme, globalement.
Sauf qu'avant
de répondre, il enrobe, il met de la crème, il met de la chantilly, il met de la pommade sur le cul.
La question sur le fair play financier.
Sur le fair play financier, ici, s'il vous plaît.
Il y a les enfants. Non, mais oui, t'as raison. Mais la question sur le fair play financier. Dans ces cas-là, fais pas d'interview si t'as pas envie de répondre. Il dit je peux pas en parler là. Et tu vas en parler quand alors? Parce que c'est quoi votre position par rapport au fair play financier? Vous allez être sanctionné tout de suite? Est-ce que vous avez demandé un étalement? Est-ce que vous avez demandé que la sanction soit remise à courant l'année prochaine par rapport à ce qui se passe? Non. Et en fait non, mais c'est entre moi et eux. Vous verrez bien. Mais attends, d'un moment, ne fais pas d'interview.
Moi là-dessus sur la DNCG, sur le fair play financier, ouais. je te rejoins pas parce que c'est des choses qui effectivement tu ne peux pas déballer comme ça dans une interview.
Mais tu peux pas déballer, mais tu peux dire les grandes lignes quand même.
C'est pas si facile que ça. Sur un sujet aussi épineux pour l'OM aujourd'hui et quand il est en train de discuter de ça avec les membres de l'UEFA et la chambre de jugement, etc. C'est pas facile dans une interview de.
Oui,
de
ça après. Des grandes lignes.
Ouais. Après, il dit quand même, c'est... il répond quand même à cette rumeur ça folle il y a quelques jours sur le fait que
Mbappé
veut vendre. Bon, il dit non, c'est totalement faux.
Oui, effectivement, c'est peut-être faux au présent, mais on sait tous que si un mec arrive et met l'argent sur la table, la courte vend.
Et ça, c'est le cas pour n'importe quoi. Chaque chose a un prix.
Et voilà, exactement. Voilà. Non, mais McCourt, vu qu'il ne peut plus mettre d'oseille, évidemment qu'on sait qu'il est vendeur. Maintenant, ça veut dire ça, ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est prêt à acheter. Oui.
Donc, exactement. Voilà. Le 32-16 est ouvert pour en parler. Moi, il fait quand même il est quand même dans une réflexion. Bon, Jacques-Henri Hérault, on adhère pas. C'est pas un type qui est bête. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, est-ce que vous pensez, parce que ça, c'est un autre sujet qu'on n'a pas trop abordé, est-ce que vous pensez que toute cette crise va vraiment accoucher sur un truc nouveau? Parce que pour l'instant, tu vas me dire, le foot d'après, la société d'après.
Est-ce que tu as vu le titre qui est retenu? Il faut renverser la table. Et puis, tu lis l'interview, tu dis, tu vas renverser quoi, en fait? Même ta table de camping, tu la renverses pas. Mais de quelle table tu vas renverser? Non mais franchement.
Non mais c'est surtout que. Est-ce qu'il y a que le foot qui aujourd'hui est géré comme ça? Tous les autres secteurs d'activité sont gérés.
Mais voilà, Pierre, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On en est toujours à l'argent du foot.
Dans une. Mais oui, non mais c'est partout pareil. Alors moi.
Est-ce que tu as vu en Angleterre, en Allemagne, on se met d'accord. La Fédé dit les joueurs pourront faire 4 matchs à Wembley. On fera ci, on fera ça. Ça c'est efficace, machin. Et chez nous, mais ça tortille et ça fait de la démago. Et l'argent du foot. Et on est toujours au même point. On tourne toujours autour de ça. Ça n'est que ça. L'argent, c'est sale et tout. Alors, il faut espérer, évidemment, que tous les secteurs d'activité reprennent. Il faut pleurer. Et nous le faisons tous. Les pauvres restaurateurs, les pauvres mecs qui bossent dans les bars. Tous ceux qui vont en plus reprendre bien plus tard, pour qui ça va être un vrai problème. Tous ceux qui organisent nos vacances d'été. Mais il faut pleurer sur tout le monde. Et non. Les gens, eux, ce qu'ils veulent, c'est taper là, pleurer pour lui. Tu sais, c'est de la sélection, c'est de l'indignation sélective. Mais j'en peux plus de ça. Je te jure, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Bon. C'est pour 4 milliardaires qu'il y a dans le foot, là.
Il y a aussi énormément de monde.
Non, la démagogie, c'est pas possible.
Il y a aussi énormément de monde qui attend le retour du foot. Il y a aussi un mouvement, quand même.
Oui, mais le mouvement va être. Ne t'inquiète pas, dans le mois qui vient, je te l'annonce, dans les semaines qui viennent, le mouvement pour il faut arrêter le foot, c'est indécent, il va grandir. Je te jure que ça va grandir. L'article, là, ça m'a étonné en plus que ce soit dans Le Point, tu vois, de lire un article aussi minable. Eh ben, tu vas voir que ça va être repris. On va en entendre parler de ça, tu vas voir.
C'est d'ailleurs pour ça, messieurs, que ce sera très, très dur politiquement. Pour les gens en place d'accepter ou d'autoriser le football de reprendre, même si c'est dans des conditions sanitaires plus que correctes,
ouais.
Par rapport à d'autres choses qui n'auront pas le droit de reprendre parce que peut-être pas les moyens de faire la même chose que dans le foot, et tu verras que politiquement ce sera très très dur de faire passer cette pilule là et peut-être qu'on se heurtera à ça justement.
Allez les gars, on va passer à Rennes dans quelques secondes, mais d'abord 2-3 infos à vous donner pour compléter tout ça. Alors vous dire qu'Anderlecht a repris sous contrôle de la police. Mais alors ça fait grosse polémique en Belgique parce qu'il y a les médecins à Bruxelles qui disent mais c'est n'importe quoi, aucun respect des consignes, aucun respect de ce qui fait aujourd'hui la transmission du virus et tout. Certes c'est légal mais c'est un très mauvais signal, donc ça fait grosse polémique hein, jusqu'au maire de Bruxelles. Voilà le fait qu'Anderlecht.
Et pourquoi ils ont repris sous le policier?
Bah ça je pense que c'est pour contrôler qu'il n'y ait pas de spectateurs ou de gens qui se pointent, tu vois, pour assurer le confinement, une sorte de confinement en fait entre joueurs, j'imagine. Mais voilà, gros, mais ils peuvent le faire hein, en Belgique, voilà, il y a rien qui l'interdit, mais ça fait polémique. Et puis alors 2-3 petites infos qui n'ont rien à voir avec le contexte du moment, mais je voulais quand même vous les livrer. Vous dire que Leroy Sané est toujours partant pour le Bayern plus que jamais. C'est son agent qui l'a dit aujourd'hui. Que le Bayern est le seul club que Sané envisage comme prochaine étape de sa carrière. Voilà. Donc il pourrait quitter.
Un bon coup. Hein. S'ils le font, c'est vraiment un bon coup, même s'il a une année compliquée avec sa blessure.
Ouais, exactement.
Mais ça reste quand même un joueur de classe. Hein.
À voir. Et puis aux Pays-Bas, je voulais vous signaler ça. Il y a eu tout le monde s'occupe hein, pendant la période sans match. Donc le principal journal de foot aux Pays-Bas a fait un grand sondage pour élire la personne la plus influente du foot aux Pays-Bas. Et qui c'est qui a gagné?
C'est un agent, je crois.
Vous dites Van de Beek.
Non, c'est un agent.
C'est Mimo, c'est le pizzaiolo.
Mais voilà,
c'est
exactement.
C'est pas Ronald Koeman. Non, c'est Mino Raiola, l'homme le plus influent du foot aux Pays-Bas. Et oui, on en est là.
Évidemment, sur le réseau poubelle, il y a encore des gens qui disent « Ouais, mais vous voulez envoyer les gens se mettre en danger, les joueurs et tout. » Non, on le répète, messieurs les illuminés demeurés, c'est sous réserve que tout soit contrôlé. Essayez de brancher le cerveau, tout est contrôlé. Il y aura, les médecins vérifieront tout, les tests, on n'enverra pas des gens sur un terrain si...
Oui,
je te jure, c'est compliqué quand même. Je te jure, c'est vraiment compliqué. Quand tu dis qu'il faut respecter les opinions et tout, je te jure, il y a quand même des mecs, il y a une tripotée d'abrutis quand même.
Mais on n'a pas parlé par ailleurs de cette histoire de test. Évidemment, comme en Italie, la Ligue est déjà en train de s'organiser pour que tout le monde soit testé. Hein. Bien sûr, c'est évident.
Mais en fait, la Ligue, les instances du foot, mais en France surtout aimerait en fait aimerait sur le mois de compétition là ou le mois et demi qui reste aimerait confiner les joueurs en fait pour qu'ils prennent le moins de risques possible, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent ensemble pendant pendant plus d'un mois. Mais le problème c'est que c'est irréalisable en France. T'as des clubs qui peuvent pas qui ont pas les moyens de garder les joueurs comme ça confinés entre eux pour éviter que après, quelqu'un après, pas, attrape le virus.
Je sais pas si vous l'avez lu et si c'est vrai, mais en Allemagne notamment, qui prévoit donc de reprendre, etc., et aussi de faire appel à des tests. Ils prévoient déjà, ou en tout cas ils en parlent, que si un joueur est contrôlé positif, il est mis en quarantaine, mais pas forcément ses coéquipiers ou les joueurs contre qui il a joué, etc. Mmh. Ils continueraient comme ça. Et au fur et à mesure,
ils font beaucoup de tests en Allemagne, hein, Pierrot. Hein. On a eu Kingsley Coman tout à l'heure là dans Team Duga, j'y étais et il nous disait que bah ouais toutes les semaines ils sont testés, que bon ils arrivent par petits groupes, que normalement ils attendent le feu vert de l'État, mais normalement ils devraient reprendre en début de semaine prochaine avec l'intégralité du groupe. Et pour un championnat, eux ils partaient pour reprendre le championnat à la mi-mai, mais à la mi-mai, moi quand je vois si l'UEFA confirme ce qu'on a dit avec Daniel tout à l'heure, c'est-à-dire une Ligue des Champions qui se terminerait donc sur tout le mois d'août, je vois pas comment les Allemands en reprenant mi-mai, qui vont finir le championnat donc fin juin, tu vas rester un mois et demi sans compétition avant de reprendre, et ils ont quand même plein d'équipes en Ligue des Champions. Mmh. Donc ça c'est problématique. Hein.
Alors une dernière info avant d'accueillir Pierre-Yves Leroux qui va faire plaisir aux supporters de Nancy. Il y avait un litige entre Nancy et Séville, vous savez, concernant le transfert de l'anglais, parce qu'il devait toucher les frais de formation. Dieu, uh-huh. Et ben, ils ont gagné devant le TAS. Nancy a récupéré aujourd'hui près de 4 millions d'euros. Et comme Nancy est un club en difficulté financière, voilà.
Donc, ça va leur faire extrêmement de bien.
Ils ont récupéré 4 millions.
Un en Ligue 2 qui était en difficulté, c'est Nancy.
Ouais. Du transfert de l'anglais. Pierre-Yves Leroux est avec nous. Salut Pierre-Yves.
Bonsoir messieurs.
C'est Pierre-Yves,
spécialiste Pierre-Yves du football breton. Or, le football breton, c'est évidemment très large, parce qu'il y a énormément de clubs en Bretagne.
Bien sûr.
Toutes les divisions.
Toutes les années un peu plus.
C'est vrai. C'est vrai.
Enfin, on verra l'année prochaine. Des fois, l'Orient remonte.
Des fois, c'est trop, même, hein, Pierre-Yves. Il faut dire la vérité.
Mais non, c'est
il y a une surreprésentation
trop.
De la Bretagne dans le foot professionnel.
Non. À un moment, c'était le Nord qui était très représenté.
C'est vrai. Et là, c'est la Bretagne.
L'année où ils ont eu les quatre clubs dans le Nord, là, en Ligue 1.
Valenciennes,
Boulogne, Lens, Lille.
Ouais.
L'objectif, c'est d'avoir Guingamp et Lorient. C'est, voilà les deux.
Mais tu pourras avoir Guingamp, Lorient, la Rennes,
Brest
et Nantes.
C'est jamais arrivé les 5 comme ça.
Non,
4
jamais.
Oui, 4 oui, non.
Jamais les 5.
Mais Guingamp, Lorient, n'entraînent, oui. Les 4, bien sûr.
Pas les mêmes
sûr.
Années.
Hein non. Les 4 ont jamais été en Ligue 1 en même temps.
4 en Ligue 1, oui, mais jamais les 5.
Guingamp, ah non, Lorient, oui. Je te disais 4, moi. D'accord.
Alors, on va parler de Rennes parce qu'il se passe plein de trucs. Alors déjà, Florian Maurice, évidemment. Quelles sont les dernières infos que tu as avant qu'on parle de Mercato? Tout à l'heure, on aura Fred Hermel qui va nous expliquer comment le Real va te piquer Camavinga dans quelques semaines. Mais d'abord, Florian Maurice, qu'est-ce que tu as comme dernières infos à nous donner?
Eh bien, du côté du club, on ne confirme pas. Nicolas Hollweck tient à dire qu'il y a des dossiers plus importants, évidemment, actuellement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est au travail, déjà. Ah. Pour le Stade Rennais. Voilà.
En fait, Hollweck travaille pour Rennes depuis Monaco et Maurice travaille pour Rennes depuis Lyon. C'est génial le télétravail.
Voilà. Non, mais voilà.
Au travail, c'est quoi, genre, pour faire en sorte qu'il récupère Yangan Biwa, les Lyonnais qui jouent pas?
Il est très disponible. Moi, si je peux rajouter ça, il est très disponible. Moi, je l'ai eu aussi. On a un joueur à Rennes. Non, il m'a rien dit de spécial. On a un joueur à Rennes, donc.
Il veut virer ton joueur.
Non, pas du tout. Il a appelé Pierre. Il a fait. Monsieur Ducrot, qu'est-ce que c'est que ce gars que vous nous avez refilé là?
Non, parce que
c'est petit blond.
Appelle Florian Maurice pour parler d'un de ses joueurs qui t'arrête.
Non, pas Maurice, monsieur Hollweck, je te parle.
Ah, d'accord.
Martin Hollweck.
Non, Maurice, on va attendre que tout soit officiel quand même pour l'appeler. On va mettre la charrue en premier.
Alors, il y a un truc marrant. West France, histoire de se rassurer, a fait le 11 type des recrues de Florian Maurice. Histoire de dire, regardez, quand même, le gars, il s'est recruté.
Oui.
Mais parce qu'il faut se rassurer.
Bah, je sais pas, en tout cas, nous, il y a 2-3 jours, quand on a commencé à faire le débat, on s'est dit, bon, attends,
non, mais ça,
les bonnes recrues.
Je vous ai tempéré, messieurs, et non, mais c'est
avant,
vrai.
Avant de laisser Pierre, excuse-moi, mais,
vas-y.
Moi, on m'a répondu. Alors, je sais pas si c'est Laurent Schmitt, c'est un agent, Laurent Schmitt, non?
Oui.
Il me semble, Pierre, qui m'a répondu.
Il a dû faire les cuisines aussi, non?
Mais à mon avis là, il devait plus faire la cuisine que s'occuper de football, parce que ce qu'il m'a répondu, franchement, là, il m'en a sorti une bonne. Il m'a sorti un article en fait, en mettant en avant la valeur marchande des joueurs de l'Olympique Lyonnais, pour me prétexter que j'avais tort en disant que je sais pas que j'étais sceptique, mais il faut arrêter de dire Maurice arrive à Rennes, c'est génial, c'est le crack français des directeurs sportifs. Arrêtez s'il vous plaît, c'est sans déconner. Alors, et il faut avoir un peu de mesure.
Déjà, on n'a pas dit que c'était le crack.
Non, je te parle pas de toi. Pierre.
Non, mais moi, je parle de nous, tout ce qu'on peut dire ensemble, peu importe qui l'a dit ou l'a pas dit ou a dit le contraire. Mais c'est vrai qu'on a pu dire dans l'émission lundi. C'est ce qui fait notre surtout Daniel. Daniel, tu t'as quand même dit très souvent depuis 10 ans, il y a juste qu'à regarder le recrutement lyonnais, il a rien fait. Tu l'as dit. Et ce qui est pas vrai, moi je me suis penché aussi un peu sur des listes. Alors je m'attarde pas que à la valeur marchande parfois ça compte un peu quand même. Mais quand tu fais juste sur les dernières années notamment, un Ndombele, un Ferland Mendy, un Memphis,
non mais tout ça j'en ai déjà parlé, Pierre, donc je te reprendrai pas si tu veux bien, tu m'en veux pas, quoi.
Même un Maxwell Cornet qui est peut-être pas une grosse réussite sportive, mais qui quelque part est arrivé,
Pierre,
pour 400 000 euros.
Je vais vous donner le 11 qu'a fait West France.
Peut-être.
Vous me dites si ça va pas. Tatarusanu.
Ouais,
Tatarusanu, c'est un deuxième gardien. Je sais pas si c'est bon.
C'est un super gardien, Tatarusanu.
Alors c'est un très bon gardien et c'est un deuxième gardien pour l'instant.
Léo Dubois. Ouais. Écoute, Pierre-Yves, dès qu'un mec est passé par Nantes, Pierre-Yves, Léo Dubois.
Les deux premiers sont passés par Nantes.
Léo Dubois. Bon, ok, réussite. Deneyer. Réussite.
C'est une réussite pour l'instant.
Ferland Mendy. Réussite.
C'est une réussite.
Lucas Touzard. Parce que là, ils ont mis Touzard en défense. Bon. Touzard
aussi, c'est un gars qu'il a été cherché en post-formation à Valenciennes.
Acheté 2,5 millions, revendu 25, donc 10 fois plus.
Ouais,
voilà.
Cornet,
Ndombele,
sportivement, c'est pas un âne non plus.
Dembélé, Mariano Diaz. Voilà pour l'équipe que donne West France.
Mais Mariano Diaz, mais arrête. Mais non, mais
Mariano Diaz, il fait une bonne saison à Lyon.
Non, mais tu rigoles, Mariano Diaz.
Moi, franchement, je vous réponds pas. J'ai répondu mille fois à ça. Je réponds pas à ça, moi. Je suis désolé, moi, je vous réponds pas à ça.
Les joueurs qu'on a cités là, Daniel, c'est des bons joueurs.
Non. Moi, j'en ai parlé mille fois, Pierre, c'est bon. Je te donne une liste qui est deux fois plus importante avec que les tocards, si tu veux. Non, mais ceux que t'as cités, moi je les retiens pas tous.
Tu peux pas faire que des bons noms, Daniel, que des beaucoup.
Non, mais on est d'accord, Pierre.
Moi j'ai dit les mecs qui faisaient franchir un cap à Lyon, et j'ai dit dans les années 2010, ce qui a sauvé le club, ce qui a permis à Lyon de rester dans les premières places au classement et de faire 2-3 bonnes. Pardon, j'essaye d'avaler un bout de chocolat, j'y arrive pas.
Oui, de manger du chocolat pendant la pub, c'est mieux.
Mais non, parce que j'avais dit que je voulais pas répondre à ça, mais comme Pierre, il arrête pas de me pousser. Alors,
maintenant tu vas répondre quand tu as fait ton
film. Je disais que dans ces années-là, c'est.
Il est gros, hein.
Les dépenses ont pas.
Il a ruiné son vélo à Jeanne ce matin-là, avec son chocolat.
C'est avec les joueurs, c'est avec les Tolisso, Lacazette, Fekir, Gonalon, Umtiti.
C'est des joueurs du centre de formation.
C'est avec eux que Lyon s'est maintenu à flot, plus qu'avec les recrutements de Flo. Voilà.
Flo Boris.
Non, et puis et moi encore. Non, mais
à une époque, Lyon dans les années 2000, il y avait il y avait des cracks qui venaient. Jusqu'à Lisandro, c'est des mecs. Je vais te dire, Pierre, même des mecs comme César Delgado, ça puait le foot beaucoup plus que ce qui a été recruté derrière. Qui avait même jusqu'à Michel Bastos, c'est des gars. Niveau foot, c'était autre chose.
Sauf Daniel, et je pense que tu vas être d'accord.
Sans parler, alors après, les Diarra, Essien, les joueurs comme, évidemment, Juninho, les Brésiliens. Mais non, c'est les années 2000. Je te parle des années 2000, de 2000, de, en gros, du premier gros coup, Sonny Anderson, jusqu'à Lisandro, les mecs qui passaient. J'oublie Thiago, le Portugais, qui était vraiment. Mais oui, mais à chaque fois, vous me relancez là-dessus, laissez-moi tranquille avec ça.
Là où Jérôme, c'est une autre période, et dans cette période-là, Lyon n'avait pas du tout la même place dans le foot français et européen que Lyon a aujourd'hui depuis 7-8 ans.
Donc dans quelques instants on revient pour parler de Rennes. Valentin veut réagir au 32-16 et on va parler également Mercato avec Pierre-Yves et avec Fred Hermel, parce que va y avoir des liens sans doute un peu plus intenses que d'habitude entre Rennes et le Real dans les semaines qui viennent. On va vous expliquer pourquoi dans quelques instants, bien sûr. À tout de suite dans la
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot.